jusqu'à 10h. Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Il est 7h pile, on est dimanche, on est le 5 janvier, il n'y a plus de Myriam Segal à la barre, si vous l'attendiez encore. Pascal CV n'est pas là non plus, mais heureusement, j'ai Vez, le météorologue, parce que j'ai regardé dehors ce matin quand je me suis levé, et il y avait de la neige.
Arrête donc, toi!
Et le météorologue Vez nous en avait parlé hier.
Ben, Caroline, j'ai oublié de relire mon livre de climatologie générale dont je vous ai parlé hier. Mais je vais faire ça durant la semaine.
Parfait. On aura la chance de s'en reparler.
Et ça va me permettre de mieux évaluer l'exactitude des prévisions d'Environnement Canada.
Ah, parfait. Peut-être. Tu pourras nous donner tes notes de la semaine.
Oui.
Tu pourrais faire ça aussi.
Noter. Seigneur, c'est pas fort.
Non, hein?
J'ai déjà fait un relevé des prévisions à 5 jours d'avance.
Oui, c'est ça.
Tu sais, mettons, aujourd'hui, ce qu'ils annoncent pour jeudi.
Puis qu'est-ce que ça donne finalement?
C'est pas souvent le. Ils n'ont pas souvent raison.
OK.
C'est comme une forme de poule, dans le fond, Vez.
Ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble un peu à de l'astrologie.
Parlant de ceux qui n'ont pas souvent raison, je ne sais pas si Will y avait tout à fait raison hier dans ses prédictions.
Ben,
il n'était pas si pire. Ben, concernant le monde du football.
Puis au hockey, on n'était pas si pire.
Il
nous manquait 2 buts des Finlandais.
C'est ça.
On avait dit 5
à 2 buts près, on avait la bonne prédiction.
Ah oh, oui. Mais on avait dit que ça n'allait pas être serré.
Et finalement, ça n'a pas été serré.
Ça n'a pas été serré partout.
Bon. Donc, c'est la bonne nouvelle.
Ben, voilà.
Parce que Will, William Boivin, bonjour.
Salut, bon matin les gars.
Là, j'ai vu que Will, t'étais embarqué dans le Ben Wagon des Saints. William, hier, s'est présenté avec son chandail des Bills. Puis là, il a décidé qu'il changeait, puis il était un partisan des Saints aujourd'hui.
Ouais, non. Ben Wagon, je trouve le mot fort, Alexis.
Okay, sérieux, d'accord.
C'est un peu condescendant, même.
Mes excuses. Ben non,
mon équipe, c'est les Browns de Cleveland, et je vais toujours le rester. Mais disons que je suis tombé en amour avec les Saints cette année en allant les voir en Nouvelle-Orléans. Donc aujourd'hui, je suis Saints. Hier, j'étais Bills et Titans. Donc j'ai quasiment eu 2 prédictions parfaites.
Presque. Ça s'annonçait bien pour ta première.
Ouais.
Mais ça s'est gâté.
Mais les Bills sont restés les Bills.
Hein? Mais qu'est-ce que tu veux?
Aujourd'hui, à l'émission, Alexis Lafrenière est en feu. Le Canada va jouer pour l'or. C'est votre résolution de la nouvelle année. C'est de changer de voiture. Ben, ça donne mieux parce que Daniel Boudreau est là pour vous éclairer. Elon Musk, est-ce que c'est du génie ou de la folie? Yvon vient nous humilier avec son quiz.
Musical.
Absolument. Et on va y passer par là, pas à peu près. Puis retournez-vous ça, vous autres, des cadeaux à Noël.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Vez,
à la météo, c'est de la faible neige qui va se poursuivre dans les prochaines heures, quelques prochaines heures. Ça va cesser en matinée. Ça a commencé à tomber en soirée hier. Pas de grosse accumulation. On parlait d'une couple de centimètres. C'est à peu près ça qu'on a eu.
Une petite minute et demie pour déneiger son auto.
À peine. Ça va se dégager cet après-midi. On devrait voir un peu de ciel bleu. Les températures vont être stables à moins 4 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages minimum, moins 17 la nuit prochaine. Branchez vos voitures. Demain, c'est du soleil en matinée. Les nuages vont arriver en mi-journée. On va avoir de la faible neige par la suite avec un maximum de moins 9, un aperçu pour mardi. C'est du soleil et moins 6. Actuellement, c'est moins 4 à Québec.
Un homme qui quittait l'hôtel Plaza de Québec après son spectacle a été victime d'une agression sauvage. Il a surpris un individu qui tentait de voler sa voiture dans la nuit de vendredi à samedi. Le voleur a alors tenté de le poignarder avec un couteau. La victime a été blessée à la main. Le suspect est toujours au large pour le moment. Les feux de forêt continuent de prendre de l'ampleur en Australie. Le bilan des morts s'alourdit alors qu'une 24e personne est décédée en raison des feux de forêt. Des centaines de propriétés ont été détruites. L'Université de Sydney estime à un peu moins de 500 millions le nombre d'animaux qui ont péri depuis le début de ces incendies. Il y a plus de 130 feux qui sont actifs en Nouvelle-Galles du Sud et au moins la moitié sont hors de contrôle. Et l'escalade de violence étant redoutée depuis l'assassinat par les États-Unis du général irakien Qassem Soleimani pourrait avoir redébuté. Il y a des roquettes qui ont été tirées sur la zone verte où se trouve l'ambassade américaine à Bagdad en Irak. Les projectiles se sont presque simultanément abattus sur une base de l'armée américaine située au nord de la ville. Les deux attaques n'ont pas fait de blessés.
Le Canadien s'est bien battu, mais s'incline tout de même 3-2 en prolongation face aux Penguins de Pittsburgh. Le tricolore encaisse un cinquième revers consécutif. Toujours pas de victoire en 2020. Les deux buts du CH ont été marqués par Arturi Lekkonen. Comme prévu, le nouveau venu Ilya Kovalchuk n'était pas de l'alignement. Il fera ses débuts lundi avec le Canadien au Centre Bell face aux Jets. Au championnat mondial d'hockey junior, le Canada a facilement défait 5-0 les Finlandais en demi-finale. Deux buts pour Alexis Lafrenière qui a été nommé joueur de la rencontre. L'équipe canadienne pourra prendre sa revanche contre les Russes aujourd'hui en finale à 13h. Les Russes ont battu les Suédois 5-4 en prolongation hier lors de l'autre demi-finale. C'était le début des éliminatoires dans la NFL. Les Texans ont comblé un déficit de 16-0 pour l'emporter 22-19 en prolongation contre les Bills de Buffalo. Les Pats se sont fait surprendre par les Titans du Tennessee 20-13 à grands coups de Derrick Henry. Le gros porteur de ballon a récolté 182 verges au sol. Donc pour la première fois en 4 ans, les Patriots ne seront pas du prochain Super Bowl. D'ailleurs, c'était ma prédiction hier. Les Titans
c'est triste.
Gagner.
Je le sais.
C'est ça. Deux matchs encore une fois aujourd'hui dans la NFL. Les Vikings contre les Saints à 13h et les Seahawks contre les Eagles à 16h40. Et les Remparts ont perdu un deuxième match de suite, 5-2, cette fois-ci contre les Olympiques. L'équipe de Patrick Roy accueille encore une fois Gatineau cet après-midi à 15h au Centre Vidéotron.
7h06, je prends les présences. Êtes-vous là? J'ai des questions pour vous autres.
25
ben
moi, je suis là.
Vest est là. Will, vous êtes là. 25-226, êtes-vous présent? Parce que là, j'ai des questions pour vous autres. D'abord, la première. Avez-vous, vous autres aussi, été pognés avec ça? La maladie, les proches malades, le rhume qui commence à se développer. J'ai l'impression que tout le monde est dans un début de rhume là, ces temps-ci, puis ça me fait peur. Là.
Moi, je l'ai pas eu. Mais il y a des gens que j'ai croisés durant les fêtes, oui, qui l'ont.
Parce que ça se distribue comme la peste, là, ces temps-ci, mm-hmm. là, surtout quand tout le monde finit par croiser tout le monde. Will, vous autres?
Oui, mon père commence à avoir un bon rhume, alors j'espère ne pas être le prochain dans la famille.
Oui, c'est ça.
J'ai
été
vacciné contre la grippe cette année, puis je touche du bois, là, mais jusqu'à présent, ça semble fonctionner.
Bon, OK. Ouais,
dès que j'ai un petit rhume, on dirait que les
mais le rhume et la grippe, c'est pas la même affaire.
Tu peux être vacciné
contre la grippe, mais pas attraper un rhume.
Oui, effectivement. Mais là, c'est contre la grippe, je voulais dire.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais bon, on se comprend, là.
Oui, mais on peut attraper un bon rhume pareil.
Tu peux pogner ça, puis ça aide pas. Puis c'est parce que je constatais ça. Puis en plus, j'étais allé faire un tour ce matin pour voir le taux d'occupation des urgences. Hey, à l'enfant Jésus, là, c'est 165% de taux d'occupation des civières. 165%, là. C'est toujours bien proche du double. Saint-François d'Assise, l'Hôtel-Dieu, Saint-Sacrement, le CHUL, c'est tout au-dessus de 120%.
Dans la région un peu plus au sud, là, les Appalaches, Chaudière-Appalaches, c'est encore pire. Je pense qu'on parle de pas loin de 200% à Saint-Georges.
C'est pas de bon sens, hein? Puis le frère de ma blonde est en visite chez nous. Fait que là, lui aussi commence à moucher. Là, je me dis, Caroline, va finir par être malade moi aussi. Là. Et tu dis tout le temps, on va réussir à l'éviter. Mais non, ça arrivera pas.
Se rendant à l'urgence avec un rhume ou une grippe, même si elle est très forte...
Je
me questionne.
Ça donne pas grand-chose.
À quoi ça peut servir, moi?
Tu peux pas faire grand-chose.
À part d'aller attraper d'autres choses, là.
Oui. Tu ressors plus amoché, souvent.
Tu sais, envoyer quelqu'un à la pharmacie, puis le pharmacien ou la pharmacienne peut vous vendre ce que les médecins vont vous prescrire, là.
Oui, c'est ça, effectivement. Surtout dans le cas d'un rhume, là. C'est pas des antibiotiques que tu vas avoir. Ou
évidemment, il peut y avoir des complications, on le comprend, là. Si il y a 40-41 de fièvre, là, prenez pas de chance avec ça, mais. Mais généralement, je pense qu'on l'a assez dit là, dans le passé, puis ça a été rappelé très souvent. La plupart du temps, on se rend dans les urgences pour rien.
Bon, oui, effectivement. Non, t'as raison. Puis c'est toujours ironique de voir que le taux de fréquentation des urgences varie également selon la programmation télévisuelle. Des fois, quand t'as quelque chose qui occupe un soir, whoop, soudainement, on n'a plus la même occupation dans les urgences.
Ce soir, c'est quoi qu'il y a à la TV?
C'est assez tranquille, là, soir, là, par contre.
Ouais, il y a pas...
La fureur, c'était hier.
C'était hier, donc ça devait être tranquille hier soir.
Tout probablement. Ça doit pas être recommencé, j'imagine.
Non, je pense pas.
Hier, c'est sûr qu'il y avait pas un chat, là. Et t'avais la fureur qui était là. Sinon, t'avais les Golden Globes. Puis sinon,
les
huit personnes
Globes?
Qui écoutent
ça.
Ah
oui, c'est vrai, je pense. C'est ce
soir.
Les Golden Globes. Je pense, mais ça me semble que c'est les dimanches soirs,
Ouais, t'as raison, on n'a pas bien vu passer.
Mais je pense pas que ça garde bien
non.
Le monde.
Il n'y aura pas 3,3 millions de codes d'écoute au Québec. Pas, là.
Mais pour les fans de sport hier, ils ne devaient pas en avoir à l'urgence.
Non.
Parce que honnêtement, il y avait toute une après-midi et soirée de sport. Là.
Incroyable.
Will, t'as comme, ben Will et Vest, vous avez commencé par équipe Canada Junior.
Oui.
Hey, faut que je vous raconte ça. Là. Hier, je me suis dit, je vais aller faire une sieste et à 13h, je vais mettre mon réveil. Comme ça, je vais être bon pour me lever et écouter le match.
Je pense qu'on a fait ça les trois dans le fond.
Sauf que, personnellement, ça a été plus dur de me lever à 13h. J'ai fini par réussir à me lever à 13h10. Je regarde... 3-0.
Ben oui.
Bon, là, j'ai dit, je me recouche. Ça ne plus à rien.
Non,
j'ai déjà vu. Le match est déjà fini.
C'était fini après 10 minutes, là.
Oui, absolument.
Mais il s'est passé quoi?
Ben, le Canada a été tout simplement dominant dès la première seconde de jeu.
Non, c'est tout.
Ils ont, écoute, muselé complètement les Finlandais qui n'étaient pas de calibre hier contre l'équipe canadienne.
Ils ont attaqué en partant, puis ils ont réussi à marquer rapidement. Alors, ça met l'autre équipe sur les talons tout de suite, puis ils en ont profité. Canada en a profité.
Les Finlandais se sont ajustés en deuxième, troisième période, mais écoute, c'était 4-0 déjà après une. Là,
mais
on s'entend que le match.
Ça manquait de conviction.
Ouais, pas mal.
Mais c'est pas une mauvaise équipe. Pourtant, là, c'est les champions en titre, les Finlandais.
Ouais, mais c'est pas la même équipe du tout. Tu sais, Walker Junior, d'année en année, les équipes sont très différentes. Il y a, tu sais, comme le Canada, je pense que c'est 5 joueurs de l'an dernier
exact,
qui sont là. C'est carrément une nouvelle équipe, là.
C'est vrai.
Tu peux pas comparer avec les formations de l'année d'avant, là.
Puis les gars, vous suivez ce tournoi-là depuis longtemps. Moi, je trouve c'est un tournoi très plaisant à suivre durant la période des fêtes. Tout ça pour dire, dans les deux dernières années, je trouvais que le Canada en avait reperdu. On était loin d'avoir une des meilleures formations du tournoi. Cette année, c'est tout le contraire. Je trouve qu'on est une des formations les plus complètes.
Oui.
Le gardien a très bien fait hier, même en première période. Les Finlandais attaquaient même quand c'était 3-0.
D'ailleurs, il était choisi joueur du match pour le Canada, d'ailleurs. Puis, c'est pas parce que c'est 5 buts d'écart, c'est parce qu'il a réussi à garder son équipe à zéro dans le match.
Puis on se répète, mais Alexis Lafrenière, il est écœurant.
Oui,
comme joueur d'hockey, là.
Très
son tir du revers pour le deuxième but. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de réussir ce genre de tir.
J'avais des doutes, moi, sur Alexis Lafrenière. Je l'avais vu jouer quelques fois à peine. Mais là, c'est la chance de le voir jouer aussi régulièrement et contre les meilleurs, surtout.
Puis, oublie pas qu'il a juste 18 ans. Il peut jouer encore l'an prochain. Là, s'il est repêché puis il joue dans la Ligue nationale l'an prochain, peut-être que l'équipe de la Ligue nationale va le céder pour le championnat mondial junior. Mais s'il n'est pas dans une équipe de la Ligue nationale, il va être encore là l'an prochain au championnat mondial junior.
Il va être dominant s'il est là l'année prochaine.
Il va être trop fort pour la Ligue, comme on dit.
Là, le Canada s'en va en finale contre les Russes. À 13h. Et bon, encore une fois, les Suédois qui sont incapables de gagner lors de la phase importante, la phase éliminaire.
Bon
ils sont parfaits en ronde préparatoire.
Je pense que c'est 52 victoires de suite en ronde préliminaire.
C'est ça, hein?
Ouais, et même depuis 2008, avant les quarts de finale, ils sont 64-1.
Ah, mais c'est ça, ça n'a aucun
sens.
Et
dans le quart et d'or, 8-15.
Donc là, le Canada va affronter la Russie. Cet après-midi à 13h. C'est quand la dernière fois que le Canada avait affronté comme ça la Russie?
En finale?
Ouais. 2011.
Ouais, 2011?
2011, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées.
C'était à Ottawa quand le Canada était revenu de l'arrière et avait gagné. C'était en prolongation.
Je pense que oui. Mais ça, c'est le but de Jordan Eberle à comme 3 secondes de la fin. Puis Stéphane Leroux qui part sur une envolée.
Je pense qu'il est tombé en bas de la galerie de presse.
Mais c'est incroyable, ça. Je me rappelle, même Angelo Esposito, me semble, était là pour l'équipe canadienne
au tournoi
à Ottawa. Mais c'est la reprise du match un petit peu plus tôt en phase préliminaire où les Russes ont battu aisément le Canada 6-0.
Oui.
S'il y avait un match à perdre durant le tournoi, ben c'est bien celui-là.
Ouais.
Ça n'a même pas empêché le Canada de terminer tout de même au premier rang de son groupe.
C'est vrai.
Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir perdu contre les Russes en phase préliminaire, et de les rejouer en finale.
Et le Canadien m'a encore perdu. 5e défaite de suite pour le Canadien. Honnêtement, là.
6e en 7 matchs, je pense.
Ah, oh, là, vive Ilya Kovalchuk. Il va jouer le prochain match, là. Il devrait être là.
Demain, en principe. Ben, possiblement. Il va être à l'entraînement ce matin, là, puis on verra.
Les gars, vous avez vu le but en prolongation?
Oui.
Carey Price n'a pas.
Faut arrêter de parler.
Pas étaler la jambière. Ben, je trouve qu'il y a pas
de courage à chaque fois qu'on en parle.
Il y avait pas l'énergie du désespoir en prolongation de faire l'arrêt clé pour permettre à son club de rester en vie.
Ben, il y en a qui disent qu'il a été accroché par le patin du joueur des Penguins de Pittsburgh qui a pris le premier lancé, mais pense qu'il était déjà déporté vers sa gauche. Ouais. C'est peut-être pour ça que la Ligue a accepté quand même le but. Mais bon, évidemment, les fans du Canadien sont pas d'accord avec cette théorie-là.
Mais ça tentait pas juste de lever la jambière, tu sais, un geste un peu...
Je pense qu'il avait déjà son excuse.
Ah ouais, c'est vrai, t'as raison.
Il était sûr qu'en étant touché à la jambière par le patin du joueur de Pittsburgh que le but serait pas bon, ce qui a pas fait l'effort.
Il me semble que t'essayes pareil.
Je pense, ben oui. Ben
si
oui.
Le but est refusé par la suite, tant mieux. Je sais pas.
Je sais pas.
Mais comme je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir miser sur Ilya Kovalchuk. Il va s'en aller, puis c'est un sauveur, lui. Il va venir tout nous régler ça. Il n'y en aura plus de problème à Montréal. Et passons à la une des journaux. Bon, une des journaux en ce dimanche, c'est toujours plus tranquille. Journal de Québec, commençons par ça. On revient sur cette agression qui s'est déroulée dans un hôtel de Québec. Musicien attaqué à l'arme blanche. Agression sauvage dans un hôtel de Québec, c'est un chanteur qui venait tout juste de faire un spectacle du côté de l'hôtel Plaza à Québec, qui sort de l'hôtel et est en fin de soirée. Là, il arrive minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Et en s'en allant vers sa voiture, se rend compte que quelqu'un qui est assis sur le siège conducteur de son propre véhicule, qui est quelqu'un qui est en train de voler sa voiture. Ça fait que là, ben, il dit, ben, écoute, ça te tenterait-tu de sortir de là? C'est comme mon char. Et là, finalement, après une certaine altercation, le gars est sorti. Mais quand Evan Duchesneau-Boudreau, qui s'appelle le chanteur en question, est arrivé pour rentrer dans sa voiture, le suspect, l'agresseur est arrivé par en arrière pour le poignarder avec un couteau. Finalement, Evan Duchesneau, qui est le chanteur en question, a réussi à se défendre. La victime qui a réussi à essayer de se défendre tant bien que mal. Il a quand même mangé un coup de couteau autour de la main. Il est par la suite rentré dans l'hôtel. Il avait la main pleine de sang. Les gens de l'hôtel, Annie Robitaille, là, qui est la directrice de l'établissement, qui raconte, écoutez, ça aurait pu arriver n'importe où. Là, puis lui, c'est ce qu'il dit aussi également. Là. Mais c'est quand même une histoire assez particulière qui se passe dans le stationnement de l'hôtel de Québec. Là. Également, une du Journal de Québec. Ils ont réussi avec seulement 25 $. Belle histoire d'une famille d'immigrants qui sont arrivés au Québec à la fin des années 90, mais 1995. Ils débarquaient de la Yougoslavie, à l'époque où il y avait des tensions dans ce coin du monde-là. Oui. Ils sont arrivés ici, il y avait juste 25$. Et ils ont commencé à fonder un café qui aujourd'hui s'appelle le Café Castello. Ils ont maintenant deux succursales, une sur Maguire, une sur Cartier. Puis ils ont même leur grosse entreprise, là, ben leur usine de torréfaction qui est du côté de Lévis. Puis là, ils s'apprêtent à léguer ça à leurs enfants. Puis ça, c'est un maudit beau modèle d'intégration et de gens qui connaissent du succès puis qui participent à l'économie d'ici. Monsieur Vez, qu'a-t-on en une de la presse plus?
Il y a quelques petites choses qui retiennent l'attention. Entre autres, on raconte l'histoire d'un jeune adolescent de Montréal qui s'appelle Matteo Corrales, qui était victime d'un grave accident il y a un an et demi. À l'époque, il avait 15 ans. Avec un groupe d'amis, il est grimpé sur le toit d'une usine désaffectée à Candiac, sur la rive sud de Montréal, un peu à l'ouest de Brossard.
Comme un bon adolescent rebelle.
Exact, avec un groupe d'amis. Ben puis, il y en a un qui est resté en bas. Puis, à un moment donné, avec son sel, le gars d'en bas, il appelle les autres. « Hey, il y a quelqu'un qui s'en vient.
Ah. » Alors,
police, agent de sécurité, on ne sait pas trop. Okay. On se sauve un peu, comme on peut. Puis, dans la fuite, le jeune Matteo est passé dans une zone de haute tension électrique.
Okay.
Et son corps a été foudroyé par 25 000 volts.
Et
ses vêtements et son corps ont pris en feu carrément, quasiment instantanément. Il est tombé, il a chuté de 18 pieds d'hauteur, il est en train de descendre de l'échelle, puis tout ça. Alors, vraiment des blessures et des brûlures surtout extrêmement graves. Il a été brûlé sur 50% de son corps. On dit à l'hôpital Sainte-Justine que ça a été un des trois pires cas des 10 dernières années qui a été traité là.
Ouais.
Il a subi 9 opérations en 2 mois, dont une qui a duré 14 heures. Vraiment l'enfer, là.
C'est incroyable.
On l'a plongé dans un coma artificiel à quelques reprises pour permettre aux opérations de prendre, entre guillemets, parce qu'il y a eu des greffes de peau. Il a été hospitalisé 4 mois. Il a débuté à l'hôpital une longue période de remise en forme avec une physiothérapeute. Il a dû tout réapprendre, marcher, courir, se brosser les dents, tenir un verre simplement. Et puis, il a même réussi à rattraper son retard scolaire, parce qu'évidemment, il était hospitalisé, il a manqué l'école.
Ouais.
Mais À coup d'effort, on salue le coup. Tu sais, c'est une leçon de courage, là, ce texte-là, ce matin. Il a réussi à rattraper son retard scolaire puis à redevenir physiquement autonome. Il veut redonner à l'hôpital Sainte-Justine, qui l'a soigné, via un programme qui s'appelle Défi Jeunesse Sainte-Justine. Et au départ, il voulait devenir... il voulait étudier en administration.
Okay.
Il a été évidemment tellement... près de sa physiothérapeute qui a décidé de changer, il veut devenir physiothérapeute.
Ah ouais, c'est à quelque part pour redonner aussi.
Exact. Hein? Oh, oui, aussi. Puis sa physiothérapeute, évidemment, est très touchée de ça, parce que c'est un signe que tu sais, il y a un lien particulier entre sa physiothérapeute et le patient. Puis elle dit, elle, ça va faire le meilleur des physiothérapeutes.
Ah,
parce que tu sais, à cause de tout le travail qu'il a dû accomplir pour retrouver la santé.
Il sait c'est quoi.
Ouais, exact. Il y a un texte de Patrick Lagacé également dans sa chronique qui parle de la relation père-fils entre Gilles Duceppe et son fils
Alexis
Brunel Duceppe, qui a été élu aux dernières élections fédérales. Alexis a souvent été se considérait longtemps comme juste le fils de.
Ouais, pas jusqu'à seulement vu comme ça, lui aussi tu finis par te voir comme
ça. C'est ça, tu sais, Gilles Duceppe a tellement été une personnalité marquante dans l'univers politique au Québec puis au Canada que les enfants ils ont pas leur identité propre, c'est le fils de. Finalement ça a duré un certain temps puis à un moment donné il a réussi à passer par-dessus tout ça. Alors Patrick Lagacé raconte ça et il y a Sylvain Charlebois qui était un directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse.
Ouais,
qui parle des parce que ça a fait jaser ici la fermeture du dernier PFK.
Oui.
À Québec.
Le dernier à Québec qui était sur Amel.
Oui. Puis Sylvain Charlebois raconte un peu les problèmes de l'entreprise PFK dans l'univers de la restauration rapide. Ça fait que c'est un texte qui est quand même assez intéressant à lire dans la section Opinion de la Presse Plus ce matin.
Merci beaucoup, Vez. Mais ça, c'est intéressant, ça, les PFK. D'après moi, là, d'ici quelques années, là, ça va. Il en restera plus ben. Déjà qu'on en voit tomber à gauche, à droite, il n'en reste même plus à Québec.
Mm-hmm.
Dans plusieurs régions, il y en a aussi qui commencent à tomber. Et éventuellement, on n'en aura plus des PFK. On ne pourra plus aller manger du poulet frit. Hein?
Ben, au Québec, il doit en rester une vingtaine?
Oh. Au Québec, je ne sais pas. Sylvain Charlebois parle qu'il y a eu près de 30 fermetures de PFK au Canada en 2019.
Hey, hein,
et plus de 1400 dans la dernière décennie partout en Amérique du Nord.
Hey.
Il y a peut-être un problème de marketing. On a changé poulet frit Kentucky pour PFK, peut-être pour faire oublier que le F c'était pour frit, ce qui est pas très santé. Par contre, on s'est peut-être pas ajusté non plus au niveau des prix. Le poulet, ce que Sylvain Charlebois raconte, c'est une protéine qui est très bon marché. Mais un baril, ça coûte quand même 21 $.
Ouais, puis l'autre affaire, c'est qu'on n'essaie pas de faire à croire avec le poulet frit Kentucky que c'est santé.
Non.
Alors que ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire croire. On essaie de faire croire que ce que vous mangez, c'est santé. Chez PFK, malheureusement, là, c'est pas vraiment possible de faire à croire que du poulet frit, c'est santé. 7h23.
Parce qu'il y a plus dans trois cocos que dans un, voici le Brasse Coco.
Vez, si tu te brasses le coco, qu'est-ce qui en sort?
J'ai vu passer cette information-là tantôt à RDI, puis j'ai trouvé le texte parce que j'ai pas réussi à prendre des notes assez vite, mais j'ai trouvé le texte sur le site de la presse. Hier, au Japon, au marché Tsukiji, à Tokyo, il y a un thon rouge.
Oui, un poisson.
De 600 livres, 270 kilos, qui s'est vendu pour la somme record de plus de 4 millions de dollars canadiens.
Un poisson normal.
Un gros poisson. Ben, normal, 600 livres.
OK, mais ça restait un poisson pareil. Là.
Ouais. C'est un géant de l'industrie du sushi à Tokyo qui l'a acheté. C'est évidemment un homme immensément riche.
Oui, évidemment.
Qui a mis la main là-dessus, évidemment, pour alimenter sa chaîne de restaurants. On dit que les prix des enchères sont au-dessus des valeurs habituelles pour le thon rouge. Habituellement, ça se vend jusqu'à 40$ américains la livre. Là, on parle de 600 livres fois 40.
600 livres fois 40, ça fait 2400?
Oui.
Ben, si mes mathématiques sont bonnes.
Non, plus que ça.
600 livres.
Fois 40, c'est 240 000.
24 000.
24 000? Bon, 24 000.
On selon est quand même, la calculatrice.
On est bon en maths, nous autres.
On est pourris.
Trois bons actuaires autour de la table.
J'espère que, qu'on ne fait pas personne nos rapports d'impôts nous-mêmes. Là.
Ah, malheureusement, je le fais.
Hein, ouais. Ah oui?
Ouais.
Sauf que ça monte à plus de 200$ la livre en fin d'année, en particulier les captures prisées d'Oma dans le nord du Japon. Apparemment que la qualité du thon est meilleure là. Sauf qu'il faut savoir que le thon rouge, une espèce en voie de disparition, ça fait augmenter les prix encore plus. Puis on dit aussi que les populations du thon, de thon rouge du Pacifique ont diminué de 96% par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, évidemment, ça fait plusieurs années, ça, l'ère pré-industrielle.
Moi, ça fait quelques temps.
C'était au 18e siècle, ça, j'imagine. Au 19e siècle, plutôt.
Pré-industriel, ouais, à peu près.
À la fin des années ouais. 1800. Là.
Ouais. Moi, je dirais 2400.
24 000. 24 000,
ouais.
Will, de ton côté, rapidement, qu'est-ce qui retient ton attention?
Bon, on a parlé de la victoire du Canada contre la Finlande hier, mais entre autres, bon, le Canada va affronter la Russie aujourd'hui en finale, mais probablement sans leur capitaine Barrett Hayton, qui s'est blessé hier lors de la rencontre. Mais entre autres, c'est peut-être une bonne chose pour le Canada qu'il ne soit pas de l'alignement, parce que lorsque le Canada a affronté les Russes, lui, il a refusé d'enlever son casque durant l'hymne national de l'équipe gagnante, donc c'était la Russie. Puis il y a une convention, habituellement, quand on fait jouer l'hymne national, on enlève le casque. Ça n'a pas plu au capitaine de l'équipe russe. Et par la suite, il a refusé de serrer la main à Barrett Hayton lors de la poignée de main entre les deux équipes traditionnelles après la rencontre. Alors, je vais surveiller ça, puis j'ai l'impression qu'autant le Canada va vouloir se reprendre puisqu'ils ont subi un gros revers de 6-0. Mmh. Mais également, je pense que la Russie a été piqué par le geste de Barrett Hayton. Donc, j'ai hâte de voir. Puis, il est blessé. Il ne sera peut-être pas de l'alignement aujourd'hui. Puis, c'est peut-être une bonne chose pour le Canada. Mm-hmm. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Vez.
Ouais. Ben, sauf que, il me semble que j'ai lu qu'il était allé s'excuser auprès des Russes. Ouais. Hayton, après le match.
Un
là.
Petit tweet, là. Puis, ouais.
Mais il était pas allé dans le vestiaire ou aller rencontrer quelques joueurs. Je me souviens. En tout cas, peu importe.
OK.
Mais de toute façon, je suis pas certain que ça fasse partie du plan de match des Russes. Là.
Non.
Mais je pense que c'est plus après le match. Ouais. Si les Russes gagnent, ils vont peut-être y remettre sur le nez.
Tu sais, quand c'est des pays comme ça qui s'affrontent, c'est très traditionnel. Ouais.
Mais ça reste des ados.
Ouais, c'est ça. Puis il a peut-être trop agi en adolescent, justement, ouais. De 19 ans.
Ouais. Mais sa blessure, ça avait l'air de faire mal.
Oui.
On l'a entendu à la reprise, là, on l'a entendu crier sur la glace. Il s'est blessé un bras ou l'épaule.
Ouais, ouais, l'épaule, j'ai l'impression que c'est la clavicule.
Ouais.
Pour avoir déjà subi des blessures à la clavicule, ah oui. Là, ça avait l'air d'être
c'est
ça.
C'est pas ouais. Le fun. Et si vous trouvez que votre temps des fêtes a été occupé et que vous avez été débordé, j'ai eu une petite pensée pour les douaniers du chemin Roxham. Il semblerait que c'est toujours pas mieux. Et que ça s'est amélioré, mais qui sont encore complètement débordés. Encore des demandeurs d'asile qui pensent là, des gens qui traversent irrégulièrement la frontière, là, parce qu'on ne peut pas dire illégalement, bien que sur la pancarte ce soit dit que si tu traverses là, c'est illégal, mais le geste n'est pas illégal en soi, parce que nous, on se drape de vertu, et les gens qui entrent par effraction dans notre maison plutôt que de cogner, on les accueille et on est bien sympathique avec eux. Et là, ben, le président du syndicat des douanes, Jean-Pierre Fortin, un bon monsieur à qui j'ai parlé quelques fois, qui dit que sont encore complètement débordés, puis racontait ça que, écoute, le phénomène, il est là pour rester. Lui, ce monsieur-là, est pas anti-immigration. C'est le président du syndicat. Tout ce qu'il veut, c'est que son monde réussisse à faire leur job comme ils peuvent et disent que ça s'annonce un peu moins pire lorsque le temps des fêtes va se terminer. Et le problème, c'est que tu sais, t'as des gens qui ont traversé, qui ont dû être hébergés 5-6 jours dans un camp de fortune, une roulotte à côté, avant qu'ils puissent passer en entrevue avec les gens des douanes pour que le processus puisse suivre son cours par la suite. Là, dit, est-ce que le phénomène est là pour rester? Lui dit oui. Est-ce que on est prêt si ça se met à doubler encore? C'est clair que non, ils ont pas l'effectif pour faire ça. Puis quand TVA a demandé aux services frontaliers de dire ben, c'est quoi vos solutions, comment vous comptez régler ça? Ah oh, ben c'est moins pire que l'an passé puis l'autre d'avant. Wow. Mais bonne nouvelle. 7h29 au retour. Je fais appel à l'expérience de Vez, parce que Vez, il a toujours vécu lui.